Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série et nous arrivons à l'étude numéro 8. Et le titre sera « Les trois Maries ». Il est dit dans la Sainte Parole de Dieu, notez Saint-Luc chapitre 11, versets 27 à 28, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Oui, ça donne à réfléchir. En 1964, les pères du Concile Vatican II ont défini ainsi le rôle et l'importance de Marie au sein de l'Église. La Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, de secours, d'auxiliatrice, de méditatrice, et l'Église n'hésite pas à professer un tel rôle subordonné de Marie, et elle en fait sans cesse l'expérience et le recommande au cœur des fidèles pour que, s'appuyant sur cette protection maternelle, ils adhèrent plus intimement au médiateur et sauveur. Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, numéro 62. Cette déclaration du magistère catholique conduit à une question de bon sens. Si les chrétiens qui s'appuient sur la protection maternelle de la Vierge adhèrent plus intimement au médiateur et sauveur, qu'en est-il de ceux qui se confient en Jésus uniquement? Remarquons que parmi ceux-ci se trouvent en premier lieu les apôtres, les disciples, les croyants de l'Église primitive. Alors une question sérieuse, étaient-ils donc moins proches du Seigneur ceux-là? Et tous les chrétiens qui, à leur suite et jusqu'à nos jours, n'ont jamais eu recours à la méditation de Marie, seraient-ils eux aussi moins proches de leur Sauveur? Dieu ferait-il des différences parmi ses enfants? Siècle après siècle, depuis le Moyen Âge, le magistère de Rome n'a cessé d'élever, de glorifier la personne de Marie, et d'inciter toujours plus les fidèles catholiques à se tourner vers elle. De nos jours, c'est par millions que des pèlerins se rendent chaque année sur les lieux d'apparition de la Vierge en divers points du monde. Certains catholiques reconnaissent toutefois qu'il y a tout de même une disproportion exagérée entre de telles manifestations de piété mariale et la confiance réellement accordée à Jésus. Quelques-uns vont même jusqu'à avouer, et cela à voix basse évidemment, qu'ils ne croient pas au dogme de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Mais aucun n'oserait rejeter le principe même du culte rendu à Marie. Et pourtant, absolument rien de ce que déclare le magistère de Rome sur le rôle et sur l'importance de Marie au sein de l'Église ne reçoit le témoignage des Saintes Écritures. En réalité, ce qui maintient fortement les catholiques dans la dévotion mariale, c'est la démonstration de puissance surnaturelle qui entoure les cultes à la Vierge. Depuis le 5e siècle, d'abord en Europe, puis dans le monde entier, des phénomènes d'apparition accompagnés de prodiges se sont en effet multipliés d'une manière extraordinaire. Même si nous ne prenons en compte que les lieux de pèlerinage reconnus officiellement par l'Église catholique, nous ne pouvons qu'être impressionnés par une telle prolifération de signes. Cette démonstration de puissance a progressivement conforté le magistère romain dans sa position doctrinale et l'a encouragé à aller toujours plus loin dans la proclamation de ses dogmes. Et pourtant, Jésus et ses apôtres, ils ont enseigné que les croyants devraient marcher par la foi et non pas par la vue, et ils ont averti que la séduction spirituelle se produirait par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Une fausse doctrine, même si elle est crue par un très grand nombre de personnes et depuis des siècles, n'en reste pas moins, au regard de Dieu, une fausse doctrine. Alors, est-il raisonnable d'utiliser la loi du nombre comme étant le critère de vérité? Mais on trouve la vérité concernant la personne de Marie. Oui, vous pouvez la trouver. Et vous pouvez la trouver dans les spéculations humaines, malheureusement, ou les écrits, surtout les écrits qui sont inspirés du Nouveau Testament. C'est là, surtout là, que vous trouverez la vérité concernant la personne de Marie. Voyez-vous, dans les phénomènes surnaturels ou les avertissements du Seigneur et de ses apôtres sur le danger de la séduction spirituelle, eh bien, nous devons réfléchir, mais surtout prier. Dieu nous aurait-il laissé sur ce grave sujet? Aurait-il pu nous laisser sans aucun moyen de discernement? Je ne crois pas. L'auteur de ce texte, qui lui-même a aimé et pratiqué les cultes à la Vierge, et cela pendant 40 années, il nous propose ici une réponse totalement biblique à ces légitimes questions en distinguant, et je vous le dis tout de suite, en distinguant premièrement la personne de Marie telle que la présentent les récits des évangiles. Deuxièmement, la personne de Marie telle qu'elle apparaît dans la doctrine catholique romaine. Et troisièmement, la personne de Marie telle que la révèle les phénomènes d'apparition surnaturels. Nous allons voir cela donc de beaucoup plus près. Premièrement, voyons Marie telle que la présentent les récits des évangiles. Les évangiles ne disent rien sur l'enfance de Marie. Ils nous apprennent seulement que Marie était vierge lorsque elle s'est trouvée miraculeusement enceinte de Jésus par le Saint-Esprit. Elle était alors fiancée à un homme du nom de Joseph. Saint-Luc, chapitre 1, verset 27. Luc rapporte qu'à cette époque, elle a séjourné pendant 3 mois chez sa parente Élisabeth, qui, elle, était enceinte de Jean-Baptiste. Or, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Élisabeth et Marie ont prononcé des paroles merveilleuses, glorifiant Dieu qui, dans sa toute-puissance et sa grande miséricorde, allait accomplir ses promesses envers son peuple en apportant le salut. Saint Luc chapitre 1, versets 39 à 56. Seuls les évangélistes Matthieu et Luc rapportent les événements qui entourent la venue du Sauveur. La naissance à Bethléem, la visite des bergers qui ont vu les anges, présentation de l'enfant au temple, prophétie de Siméon et de Anne, venue des mages, la venue des mages, et ensuite la fuite en Égypte. Donc le texte de Saint Matthieu laisse entendre qu'après la naissance de Jésus, Joseph et Marie étaient mariés. Ils ont pu vivre une vie de couple tout à fait normale. Mais il, Joseph, ne la connut pas, et il ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle avait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 25. Plus loin, dans les évangiles toujours, il est question des frères et des sœurs de Jésus. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent dire étaient étonnés, et ils disaient, « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? Alors d'où lui viennent donc toutes ces choses ? Saint Matthieu chapitre 13, versets 54 à 56. À l'âge de 12 ans, Jésus accompagne ses parents à Jérusalem pour la Pâque. Sur le chemin du retour, ceux-ci le croient perdu. Et lorsqu'ils le retrouvent dans le temple, au milieu des docteurs, Jésus leur explique qu'il devait s'occuper des affaires de son père. L'évangéliste et disciple Luc note ceci. Notez Saint Luc, chapitre 2, versets 50 et 51. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il ajoute, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Dans la dernière parole de Marie mentionnée dans les évangiles, se trouve dans le récit des noces de Cana. Cet épisode, elle se situe au début du ministère public de Jésus. Là, nous y voyons Marie intervenir auprès de son fils parce qu'il n'y avait plus de vin pour les invités et de recommander aux serviteurs présents « Faites tout ce qu'il vous dira. » Saint Jean, chapitre 2, verset 5. À la fin du récit, l'évangéliste Jean conclut « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Alléluia. Saint Jean chapitre 2, verset 11. Durant son ministère public, Jésus ne fait pas de différence entre les membres de sa famille et toute autre personne. Voici que sont survenus sa mère et ses frères, et qui, se tenant dehors, l'ont envoyé pour l'appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères, ils sont dehors, et ils te demandent. » Et Jésus répondit, « Qui est ma mère et qu'ils sont mes frères, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mon frère, c'est ma sœur et ma mère. » Saint Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. Cependant, Jésus n'a pas cessé d'entourer Marie de beaucoup d'amour filial. Cela apparaît du reste à Golgotha, où malgré l'opprobre et les souffrances de la crucifixion, il se montre très préoccupé pour sa mère et il la confie aux soins de Jean, le disciple bien-aimé. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Saint Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Marie, elle est mentionnée une dernière fois au début du livre des Actes, au milieu des disciples, dans la chambre haute, où ils attendaient la venue de l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis. Il est dit dans Actes chapitre 1, verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Acte 1, verset 14. Les récits des évangiles nous font découvrir Marie comme étant une femme simple, pleine de foi, d'humilité et d'obéissance. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce que par la grâce de Dieu, elle mettrait au monde un enfant qui serait appelé fils du Très-Haut, héritier du trône de David, sa réponse résume son attitude et son caractère. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit donc fait selon ta parole. » Saint Luc, chapitre 1, verset 38. Tandis que Jésus parlait ainsi, voilà une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux, le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Saint Luc, chapitre 11, versets 27 et 28. Donc, cette parole, elle montre que Jésus n'a pas encouragé l'exaltation de sa mère, pas du tout. Et voyons maintenant le deuxième point. Voyons Marie telle qu'elle apparaît dans la doctrine catholique romaine. Lorsque l'Église catholique parle de Marie comme étant la Sainte Vierge, cela comporte un double aspect. Premièrement, la conception virginale de Jésus, le fait que Marie a conçu Jésus par l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit. Et deuxièmement, la virginité perpétuelle de Marie, le fait que Joseph et Marie ont vécu leur mariage sans l'union des corps. Donc, selon la doctrine catholique, Marie serait restée vierge toute sa vie. La première mention officielle de cette virginité perpétuelle, supposée, donc c'est ce qu'ils pensent, tous les catholiques, que cette virginité perpétuelle remonte remonte à 1653. C'est là qu'ils ont décidé qu'elle serait une vierge perpétuelle. Et dans un texte du Concile de Constantinople, II, qui parle de la sainte, vous avez compris, de Marie, glorieuse et toujours vierge, de même, le Concile Vatican II affirme les fidèles doivent aussi vénérer la mémoire, en premier lieu, de la glorieuse Marie, toujours vierge. Lumen Gentium, numéro 52. Pour le magistère catholique, le fait que Marie soit restée vierge toute sa vie durant, est très important, parce que c'est sur la base de cette vertu-là qu'il va établir l'excellence de sa perfection et son haut degré de sainteté. Premièrement, Marie est née absolument sans péché. Marie est-elle vraiment née pécheresse, comme toute créature humaine? Cette question va être de plus en plus débattue dans l'Église à partir du XIIe siècle et jusqu'à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle. En 1482, le pape Sixte IV aurait approuvé la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre et lui avait donné un office propre. Le 8 décembre 1854, le fameux pape Pie IX, après une consultation de l'épiscopat mondial, définit le dogme de l'Immaculée Conception dans sa bulle Ineffablis Deus. Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé totalement intact de toute souillure du péché originel. C'est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Et c'est pourquoi, s'il en était ce que à Dieu ne plaise, qui aurait la présomption d'avoir des sentiments contraires à ce que nous venons de définir, qu'ils sachent très très clairement qu'ils se condamnent eux-mêmes par leur propre jugement et qu'ils ont fait naufrage dans la foi et se sont séparés de l'unité de l'Église et que de plus, par le fait même, ils encourent les peines portées par le droit s'ils osent manifester par parole, par écrit ou par quelques signes extérieurs ce qu'ils pensent intérieurement. Deuxièmement, Marie n'a absolument jamais péché. Dans le catéchisme de l'Église catholique, édition 1992, le magistère enseigne que Marie n'aurait pas péché une seule fois durant toute sa vie. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure, pure de tout péché personnel, tout au long de sa vie. Numéro 493. Troisièmement, Marie est élevée au ciel et elle est glorifiée. L'exaltation de Marie a culminé avec le dogme de l'Assomption proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII dans sa constitution apostolique munificentissimus Deus. L'auguste mère de Dieu a enfin obtenu, comme le couronnement suprême de ses privilèges, d'avoir été préservée de la corruption du tombeau et comme son fils, après avoir vaincu la mort, d'être élevé en corps et en âme à la gloire au plus haut des cieux pour y resplendir comme une reine à la droite de son fils, le roi immortel des siècles. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un, ce que à Dieu ne plaise, oserait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par nous, qu'il sache bien qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. Quatrièmement, Marie est exaltée comme étant la reine de l'univers. Remarquons que, en 1964, les pères du Concile Vatican II ont confirmé les dogmes des papes et n'ont pas jugé bon de lever les anathèmes qui leur sont associés. La Vierge Immaculée, préservée de toute souillure de la faute originelle, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son corps et son âme à la gloire du ciel, et elle a été exaltée par le Seigneur comme étant la reine de l'univers. Lumen Gentium, numéro 59. Maintenant, selon les pères du Concile, la Vierge aurait bénéficié d'un don, d'une grâce absolument exceptionnelle, par lequel elle est bien loin au-dessus de toutes les créatures célestes et terrestres. Lumen Gentium, numéro 53. Et cinquièmement, Marie, médiatrice et protectrice. Enfin, dans le prolongement de cette exaltation, le texte de Vatican II définit le rôle médiateur et protecteur de la Vierge au sein de l'Église. Élevée au ciel, par sa multiple intercession, elle continue donc à nous donner les dons du salut éternel. Elle veille avec soin sur les frères de son Fils. Et c'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, de secours, d'auxiliatrice et de médiatrice. Lumen Gentium, numéro 62. En récapitulant tout ce que Rome attribue à la Vierge, nous constatons que Marie devient pratiquement semblable à Christ, puisque, comme Jésus, premièrement, elle serait née absolument sans péché. Deuxièmement, elle aurait vécu sans commettre de péché. Troisièmement, elle aurait été élevée au ciel avec son corps et même glorifiée. Quatrièmement, elle aurait été exaltée comme étant la reine de l'univers. Et cinquièmement, elle exercerait un rôle médiateur et protecteur envers tous les croyants. Surtout les croyants catholiques. Sur tous ces points, les docteurs catholiques ne peuvent avancer une seule preuve biblique. Par contre, sur les mêmes points, la Sainte Parole de Dieu nous donne de nombreux témoignages concernant la personne de Jésus. Premièrement, Jésus est né sans péché. l'ange Gabriel a dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Saint Luc chapitre 1, verset 35. Deuxièmement, Jésus a vécu sans commettre de péché. Notez s'il vous plaît 1er épître de Pierre chapitre 2 verset 22. L'apôtre Pierre rend donc de Jésus ce témoignage. Il dit, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. 1er épître de Pierre chapitre 2 verset 22. Troisièmement, Jésus est monté au ciel avec son corps et il a été glorifié. L'évangéliste Luc rapporte que pendant qu'il, Jésus, les bénissait, les apôtres se séparent, il se sépara d'eux, Jésus se sépara d'eux, et voici qu'il fut élevé au ciel. Saint Luc chapitre 24, verset 51. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Actes chapitre 7, verset 55. Quatrièmement, Jésus a été exalté comme étant le roi de l'univers. L'apôtre Paul, il enseigne qu'en raison de son abaissement et de son humiliation à la croix, Jésus a été élevé par le Père. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 verset 7 à 11. Et cinquièmement, Jésus est devenu le médiateur et le protecteur de tous ceux qu'il a sauvés. Car il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. L'apôtre Jean mentionne dans son évangile cette merveilleuse promesse du Seigneur. Notez Saint Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Médiation de Christ et médiation de Marie. Voyez-vous, les pères du Concile Vatican II ont pris la précaution d'établir un ordre d'importance, une hiérarchie entre la médiation de Christ et celle qu'ils attribuent à Marie. C'est pourquoi il parle d'un rôle subordonné de Marie. Donc, Lumen Gentium 62, que j'ai déjà cité. Cette nuance n'est qu'un artifice des mots. Elle ne tient pas face à la vérité biblique. Lorsque nous lisons en 1 Timothée chapitre 2 verset 5 qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'Esprit Saint indique par là qu'il ne peut absolument, mais absolument pas y avoir d'autre médiation. Tout ce que l'Église catholique croit trouver en Marie, Dieu l'accorde aux croyants qui ont placé leur confiance totalement en Jésus-Christ, car en lui seul habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est dit dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Que peut-on ajouter à cette plénitude? Je vous le demande. Marie est une personne défunte. Elle a été rachetée, qui attend la résurrection et la glorification de son corps, au même titre, écoutez bien, que les apôtres du Seigneur et que tous les croyants de tous les âges. Donc, le rôle et l'importance que les docteurs catholiques ont attribué à Marie n'est qu'une pure fiction théologique. Selon les Saintes Écritures, c'est lors de l'avènement de notre Seigneur que Marie ressuscitera et sera glorifiée avec tous ceux qui appartiennent à Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme promesse, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23. Ensuite, nous avons Marie telle que la révèlent les fameux phénomènes d'apparition surnaturelle. Remarque préalable. L'Église catholique ne considère pas comme authentique toutes les apparitions mariales. Elle ne donne son approbation que lorsqu'elle discerne une origine surnaturelle incontestable, et cela selon ses propres critères. C'est pour cette raison, ou plutôt pour cette raison, ne sont cités que les messages provenant des apparitions qui sont reconnues par l'autorité catholique. Premièrement, l'apparition se présente généralement avec les qualités, titres et rôles en usage dans la dévotion mariale. Je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, mère du vrai Dieu. Dieu donnerait donc aux hommes, par la médiation de mon amour, à moi, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de mon salut. C'est écrit dans Notre-Dame de Guadeloupe, Mexique, le 9 décembre 1531. Je répète. Il était dit là, à Guadeloupe, « Je suis la parfaite et je suis toujours la Vierge Marie, mère du vrai Dieu. Oui, ça donne à réfléchir. Mexique, le 9 décembre 1531. Ensuite, je suis l'Immaculée Conception à Lourdes, le 25 mars 1858. Ensuite, par moi, il Jésus touchera les cœurs les plus endurcis, paix le voisin, France, le 2 juillet 1876. Ensuite, je suis la mère de Dieu, je suis la reine des cieux, je convertirai les pécheurs. Beaurain, en Belgique, le 3 janvier 1933. Deuxièmement, l'apparition demande qu'on lui rend un culte et honneur. Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Lourdes, le 2 mars 1858. Que l'on fasse ici une chapelle à mon honneur. Je suis Notre-Dame du Roseraie. Que l'on continue toujours à dire le chapelet tous les jours. Fatima, le 13 octobre 1917. Dites à monsieur le curé de construire une grotte le plus tôt possible, là où je suis, et d'y placer ma statue. L'île Bouchard, France, le 8 décembre 1947. Et troisièmement, l'apparition promet salut, protection et guérison. Voici le privilège que je donne à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit, le scapulaire, sera sauvé. À Simon Stock, ermite du Mont Carmel, le 16 juillet 1251. Il faut donc frapper une médaille sur ce modèle, et les personnes qui la porteront indulgenciées et qui feront avec piété cette courte prière, ils jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. Rue du Bac, à Paris, le 27 novembre 1830. Sous cet arbre, construisez un reposoir avec la statue de l'Immaculée Conception. Mettez des tissus au pied de ce reposoir, puis donnez-les aux malades. Kitzwald, en Pologne, le 6 juillet 1877. Chers amis, est-ce vraiment Marie, la mère de Jésus, qui se révèle en ces divers lieux d'apparition? Oui, répond l'autorité catholique, parce que ces révélations concordent avec la doctrine mariale qui est définie par le magistère infaillible de Rome. De plus, elles sont authentifiées par de très nombreux signes et miracles. Et nous disons non, 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 répond le croyant qui est fondé sur la sainte parole de Dieu, parce que ces révélations présentent une Marie différente de celle des évangiles. De plus, les signes et miracles ne constitue pas une preuve absolue d'origine divine. Chers amis, dans tous les récits bibliques, nous ne voyons jamais Dieu envoyer une personne défunte vers les vivants pour leur parler de sa part. mais Dieu envoie toujours des anges, comme il a fait, par exemple, avec Marie et Joseph, avant la naissance de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux définit ainsi le rôle des anges. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1, verset 14. Mais toute apparition angélique n'est pas obligatoirement digne de foi. La parole de Dieu nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans moyen de discernement. Relisons par exemple ce que dit l'apôtre Paul au sujet des révélations surnaturelles. Notez Galates, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous avez appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Donc l'apôtre est très clair. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par quelqu'un qui dirait être au bénéfice de révélations surnaturelles. Notre critère de discernement doit toujours rester la conformité de ces révélations au message immuable et intangible de l'Évangile. Or, le message des apparitions surnaturelles de la Vierge est bel et bien un autre évangile, puisque, s'il vous plaît, puisque la Vierge des apparitions demande qu'il lui soit adressé des prières qui, selon Jésus, ne doivent être adressées qu'à Dieu seul, elle ajoute sa propre médiation à celle de Jésus-Christ, qui, d'après le Nouveau Testament, est l'unique et unique et tout suffisant. Elle veut que l'on fasse des statues et des processions en son honneur, ce qui est une incitation à désobéir au commandement de Dieu. Elle demande que l'on porte des médailles à son effigie, que l'on pratique des choses qui ne sont pas révélées dans la Sainte Bible. C'est de la superstition, et même on peut dire que c'est carrément de l'occultisme. Mes chers amis, dans l'enseignement et dans les pratiques culturelles de l'Église catholique, ce sont donc trois Marie qui nous apparaissent. Primo, la vraie Marie, celle que révèlent les récits des évangiles, l'humble servante du Seigneur. Secondo, une autre Marie fictive, figure émergeant de l'imagination des théologiens et qu'il faut dissocier du personnage historique. Et Tierzo, une Marie occulte, entité spirituelle qui se présente comme étant la mère de Dieu et qui met les catholiques en contact avec les puissances des ténèbres. Croyez-le ou pas, il est donc évident que ni la Marie fictive des dogmes romains, ni la Marie occulte des apparitions surnaturelles ne reçoivent le témoignage de la Sainte Parole de Dieu. Conclusion. Marcher par la foi et non pas par la vue. L'apôtre Thomas, il refusait de croire à la résurrection tant qu'il n'avait pas vu et qu'il n'avait pas touché lui-même les marques des blessures sur le corps de Jésus. Et le Seigneur lui a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont tout de même cru. » Saint Jean, chapitre 20, verset 29. Je prends parfois des versets dans les versions allemandes, puisque je suis de langue allemande. Chers amis, Dieu désire que ses enfants marchent par la foi et non pas par la vue. Les nombreux miracles accomplis par Jésus et par ses apôtres sont les signes que Dieu nous a donnés, oui, pour que nous croyions. Il nous a tout donné pour que nous puissions vraiment croire. Pourquoi en rechercher d'autres? Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont du reste pas écrits dans ce livre. Mais ces choses, elles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est vraiment le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, la vie éternelle. Saint Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Et notez s'il vous plaît, Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4, où il est dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous, ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Hébreux 2, versets 3 et 4. Donc l'Esprit Saint, en parlant par ses serviteurs, nous a aussi mis en garde contre l'existence d'autres signes, des signes à caractère mensonger et ayant pour but de nous séduire, en nous écartant de la vérité. L'apparition de, par exemple, on peut dire de cet impie, se fera évidemment par la puissance de Satan. Et cela avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 et 10. Chers amis, nous devons considérer ces avertissements avec le plus grand sérieux. Pour bien mesurer la gravité de ces choses, souvenons-nous de cette solennelle déclaration du Seigneur Jésus. Il a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce seront ceux-là seuls qui font la volonté du Père. La dévotion à la Vierge catholique, je vous le demande, répond-elle à cette volonté divine? Chers amis, nous devons marcher les yeux fixés uniquement sur Jésus. La Sainte Bible nous invite à marcher les yeux fixés sur Jésus, qui lui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Et non pas en regardant vers Marie. Jésus-Christ, c'est uniquement lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour tous ceux qui auraient la foi en son sang qu'il a versé à la croix. Romains chapitre 3, verset 25. Par le sang précieux de Jésus, le croyant est racheté. 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Il est pardonné, nous sommes pardonnés, selon Éphésiens chapitre 1, verset 7. Nous sommes justifiés, Romains chapitre 5, verset 9. Nous sommes réconciliés et nous sommes en paix avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 20. Nous sommes purifiés. 1er épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 1, verset 7. Nous sommes sanctifiés. Hébreux 13, verset 12. Et nous sommes vainqueurs de Satan. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Alléluia. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, versets 11 et 12. Que peut-il manquer que Dieu ne nous ait donné en son Fils et que nous devrions rechercher auprès de Marie une créature elle-même rachetée par le sang précieux de Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle se trouve en son Fils uniquement. 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 11. Pour terminer notre étude, voici quelques passages bibliques sur lesquels le magistère s'appuie généralement pour justifier la dévotion mariale. Toutes les générations me diront bienheureuse. Cette parole, elle a été inspirée par l'Esprit Saint, selon Saint Luc chapitre 1, verset 48. Elle a été inspirée à Marie. Lorsqu'elle se trouvait en présence d'Élisabeth, la dimension prophétique de cette parole se réalise chaque fois qu'un pécheur sauvé par Christ rend gloire à Dieu pour l'unique et merveilleux privilège qu'il a accordé à Marie en la faisant mère du Sauveur. Cela, c'est, croyez-moi, c'est de outrepasser le sens de cette prophétie que de l'utiliser comme preuve d'une quelconque volonté divine concernant la dévotion mariale. Ensuite, il est dit dans Saint Jean chapitre 2 verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » En effet, aux noces de Cana, l'intervention de Marie auprès de Jésus en faveur des convives est généralement présentée comme étant une préfiguration de son futur rôle médiateur dans l'Église. Or, une lecture sans préjugés de ce récit attire cependant nos regards non pas vers Marie, il me semble, mais vers Jésus. Jésus, comme le souligne l'apôtre Jean à la fin de sa narration, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce premier miracle n'a pas d'autre sens et d'autre but que de révéler la nature et la puissance divine de Jésus pour que l'on puisse croire en lui. Que Marie ait fait preuve à Cana de sollicitude envers les hommes, cela n'implique nullement que Dieu ait fait d'elle une médiatrice. D'ailleurs, Jésus avait dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Saint Jean chapitre 2 et 4. Jésus dit, « Femme, voici ton fils. » Saint Jean chapitre 19 verset 26. La Bible de Jérusalem indique en note de ce passage le contexte scripturaire et l'appellation « femme » semble indiquer que l'évangéliste voit ici un acte qui dépasse la simple piété filiale. C'est la proclamation de la maternité spirituelle de Marie, la nouvelle Ève, à l'égard des croyants représentés par les disciples bien-aimés. Ici, les exégètes catholiques reconnaissent eux-mêmes le caractère incertain de leur affirmation. Ces trois exemples montrent donc de quelle manière le magistère catholique va bien au-delà du texte biblique pour y trouver confirmation de ces fameuses doctrines. C'est dans la Sainte Bible que se trouve consigné tout, absolument tout, ce que nous pouvons connaître sur la personne de Jésus-Christ, sur sa divinité et sur sa sainteté, sur sa vie terrestre, sur son œuvre de salut, sur son rôle médiateur et son futur retour en gloire. En sorte que la foi et l'espérance du chrétien, tout cela repose entièrement et exclusivement sur les saintes écritures, c'est-à-dire sur la sainte parole de Dieu. C'est aussi dans la Sainte Bible que nous pouvons trouver tout, absolument tout, ce qui concerne la personne de Marie, sa vie, sa contribution à l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Mais la Marie des récits évangéliques, elle est très différente de la Vierge priée et honorée actuellement dans les cultes catholiques et sur les nombreux lieux de pèlerinage. Dans cette courte étude, l'auteur, qui a lui-même beaucoup aimé et pratiqué la dévotion mariale pendant 40 ans, il propose d'examiner cette différence en distinguant trois Marie. Primo, la personne de Marie, telle que la présentent les récits évangéliques. Secondo, la personne de Marie, telle qu'elle apparaît dans la doctrine catholique romaine. Et Tierso, la personne de Marie, telle que la révèlent les phénomènes d'apparition surnaturelle. Et, chers amis, s'il vous plaît, revenons à la simplicité de de la sainte parole de Dieu. Croyez-moi, c'est ça qui sera de loin le meilleur pour nous tous. Et maintenant, j'essaie de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1958. Et évidemment, en ce temps-là, vous comprendrez, il n'y avait pas de CD et les enregistrements n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Alors vous me pardonnerez si les paroles ne sont pas toujours très audibles. Mais c'est juste pour que vous puissiez recevoir tout de même quelque chose dans votre âme et esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous continuerons demain matin au sujet de ce que a encore fait ce grand serviteur de Dieu, Bernard Pruneau, de France. Donc voici quelques chants.
Notre langue des chants d'allégresse, l'éternel a fait pour nous le grand amour. Nous sommes dans la gloire. L'éternel a fait pour nous le grand amour. Nous sommes dans la gloire. Alors on disait parmi les nations, l'éternel a fait pour nous.
Nous sommes